On va ouvrir un moment la parole de Dieu sur le thème des circonstances aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et cette semaine, on a porté un regard particulier sur la Pentecôte, tout d'abord en se rappelant qu'elle ne s'est pas préparée en un jour. Lorsque le Seigneur a amené les disciples, les a encouragés à attendre ce que le Père avait promis et qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte, il l'a préparé à l'avance. Pendant 3 ans, il a été avec eux. Il leur a fait vivre des choses, il leur a montré des choses, il a parlé à leur cœur, il a fait son œuvre pour les amener à la Pentecôte. Et comme on l'a partagé mardi soir, pendant ces 3 années, en fait, ils étaient avec lui, mais sans être vraiment ensemble. À chaque sujet particulier qui sortira, on voit bien qu'ils ne sont pas ensemble, l'un voulait être assis à droite, l'autre à la gauche du Seigneur Jésus, et d'autres circonstances comme cela. Les frères et sœurs du Seigneur Jésus ne croyaient pas en lui, et puis Jésus va se révéler à Jacques en particulier, après la résurrection, c'est le premier qu'il va rencontrer son frère cadet. Et on l'avait partagé il y a un certain temps, que se sont-ils dit tous les deux, on ne le sait, mais ça va être particulier lorsque le frère aîné, qui est mort, crucifié, et tout le monde était absent, sauf sa mère, rencontre le frère cadet. Ils ont dû avoir une discussion qui a porté ses fruits, puisque Jacques va se retrouver dans la prière. C'est pour montrer que pour différentes raisons, et séparément les uns des autres, ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient avec lui, à côté de lui, à différents moments, mais il n'y avait pas cette unité. Puis ils vont se retrouver dans la prière en train de prier ensemble. Alors qui a osé prier le premier, je ne sais. Et ça a dû être particulier, ce moment. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. D'aucuns mauvais commentateurs diraient, eh bien, Seigneur, après 3 années de ministère, il n'y en a que 120 disciples. Mais personne ne se permettrait de faire une remarque pareille au Seigneur. Ils étaient des milliers, ils étaient des foules, à avoir été bénis par lui. Mais le jour de la Pentecôte, ils n'étaient quand même que 120. Mais ils se sont mis à prier. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Vendredi soir, on a vu la Pentecôte sous un autre jour, c'est le fait de parler. C'était une bénédiction que Dieu voulait donner à son peuple, et à chacun en particulier, puisque ces langues se sont posées séparément sur tous les disciples réunis, et ils se sont mis à parler. Ça m'a fait penser à cette affirmation du Seigneur dans le livre de la Genèse, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et c'est pour cela que nous avons des yeux, parce que Dieu a des yeux, certainement différents de nous, évidemment, mais on ne va pas aller jusque-là. Dieu, nous avons des oreilles, parce que Dieu a des oreilles, elle n'est pas trop dure pour entendre. J'irai même plus loin, Dieu a des mains, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Voilà. Le Seigneur a un cœur, et il nous parle de tout son cœur, et il s'adresse à notre cœur. Et Dieu a une bouche, et il parle. Et cette semaine, j'ai pris conscience qu'à cause du péché, il y a eu entre Dieu et nous différentes dégradations, y compris au niveau de la parole et du langage, à tel point qu'on ne savait plus comment lui parler, ancienne nous a prié. Et du coup, après c'est l'effet domino, hein. On ne savait plus, on ne sait plus comment se parler les uns aux autres, on se parle comme on a appris, comme on nous l'a montré, comme on l'a vécu à la maison. Voilà. Et nous sommes ensuite devant un Dieu qui est un Dieu de parole, il est le Verbe. Et la parole de Dieu a une autre dimension que la nôtre, parce que par sa parole, il a créé le monde. Par sa parole, il restaure notre âme. Et le jour de la Pentecôte, les disciples attendaient une bénédiction. Quelle serait-elle? Et c'était des langues de feu. Et je me dis, mais Seigneur, ce jour de la Pentecôte, c'est une fête, et on va le voir ce matin sous cet angle-là. Mardi, on a vu que ça s'est préparé, ce temps de prière. Vendredi, on a vu que ce que Dieu a donné, c'était des langues, afin que ce peuple parle, non pas avec des mots de tous les jours, qui étaient les leurs, et nos mots sont, on le sait très bien, ils sont forts, mais ils sont limités aussi, même entre nous, des fois, on ne sait pas quel mot prendre, quelle phrase formuler pour dire les choses. Et j'ai fait sourire tout le monde vendredi en disant que lorsqu'un garçon fait une déclaration à une fille, il utilise ses mots et sa pensée, et la fille, quand même, elle va interpréter. Elle va comprendre ce que lui, il a voulu dire. Et pas mal de dames souriaient parce qu'apparemment, c'est comme ça en général que ça se déroule. Le garçon est assez embarrassé, il sait ce qu'il veut dire, mais il est très mal à l'aise pour le formuler. mais ça va se comprendre. Eh bien, toute proportion gardée, quand on s'adresse à Dieu, il y a un tel décalage entre lui et nous. On n'a pas le même dictionnaire, on n'a pas le même vocabulaire, et puis ces mots veulent dire beaucoup d'autres choses en profondeur que les nôtres. Et le jour de la Pentecôte, il leur a donné de son esprit, pour que ces hommes et ces femmes se mettent à parler. Alors on va aller dès le départ, peut-être, on va modifier un petit peu les choses du coup, on va aller dès le départ, peut-être à la fin du message, dans 1 Corinthiens 14. Et je voudrais mettre vraiment l'accent ce matin sur ce point-là. La Pentecôte, c'est une fête, on en parlera, mais c'est surtout ce que Dieu attendait, c'est que ces hommes et ces femmes lui parlent en esprit. Et nous ne savions pas parler en esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira à 1 Corinthiens 14, 14, c'est facile à se rappeler, 1 Corinthiens 14, 14, et il faut le relier avec les déclarations du Seigneur, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Et l'apôtre Paul qui va découvrir tout cela dira ceci dans ce chapitre magnifique des Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et je ne veux surtout pas les mettre en opposition, parce que ce serait une erreur, mais les mettre en relation, notre intelligence et la vie de l'esprit. Nous avons commencé avec notre intelligence à lire la parole, à écouter, à essayer de comprendre ce que le Seigneur disait, ne serait-ce qu'au travers des paraboles, et nous avons tous fait comme les disciples, le Seigneur enseigne, explique-nous, parce qu'on sent qu'il n'y a pas que des mots, il y a plus que des mots. Il y a un sens au-delà des mots, et nous avons besoin d'entrer dans la dimension de la vie de l'esprit, mais nous en étions à l'extérieur totalement, totalement. Alors Dieu s'est adapté à notre langage, il a pris les mots qui sont les nôtres, mais quand lui il les utilise, ça n'a pas le même effet que nous. Moi, j'ai beau dire que la lumière soit, à part appuyer sur le bouton, mais lui, il prend les mots avec sa dimension, et quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et des choses se passent. Et quand il dit au paralytique, lève-toi, il se lève. Quand il dit au pêcheur, à la femme pécheresse, va et ne pêche plus, si elle saisit ce qu'il y a dans ses mots, sa vie est complètement transformée. Quand il dit au brigand sur la croix, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, ce sont des mots basique, seulement il y a une autre dimension derrière. Je voudrais que ce matin on puisse prendre la mesure de cette dimension. C'est, pour Dieu, c'est une fête. C'est la deuxième fête qu'il a établie. Alors, je vous donne un texte à lire qu'on ne lira pas. Je ne veux pas être trop long. Je voudrais qu'on garde un temps pour la prière. C'est Lévitique 23. Toutes les fêtes que Dieu donne, qui commencent par la Pâque et qui terminent par la fête des tabernacles. Juste après le Yom Kippour, juste après, quelques jours après le Yom Kippour, mais qui commence par la fête de Pâques. Et toutes sont des fêtes, avec des connotations particulières, notamment la fête de Pâques, c'est que pour Dieu c'est un sacrifice, mais en même temps c'est une fête. Sacrifice à cause de ce qu'il doit faire pour le salut de nos âmes, il paie le prix, et c'est une fête, les pécheurs vont être pardonnés. Des hommes et des femmes qui étaient séparés de lui, à jamais perdus, vont pouvoir entrer dans le ciel de gloire, ça c'est la fête. Et il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent, mais il y a eu un prix à payer. Mais Dieu quand même nous le donne sous forme de fête. Et la Pâque, c'est une fête avec une connotation particulière, qui appelle une seconde fête. La Pentecôte, 50 jours plus tard. À la Pâque, on agite le prémisse des récoltes. Et à la Pentecôte, alors là, on est en plein dans les récoltes. À la Pâque, Dieu a semé. Ce qu'il a semé a commencé de donner du fruit. Le grain qui a été mis en terre, qui a été brisé, a porté du fruit. Le salut des âmes. À cause de la croix, tout est bouleversé. Le ciel est bouleversé. L'enfer, n'en parlons pas. Sur la terre, eh bien, les sépulcres se sont ouverts, le voile s'est déchiré. Il y a des choses bouleversantes qui se sont passées. Et ça appelle la suite. Et la suite, c'est quand ces cœurs pardonnés du péché, c'est lorsque ces cœurs purifiés peuvent recevoir ce que Dieu voulait donner de son esprit. Et Jésus l'avait dit, il l'avait dit le dernier jour de la fête des tabernacles, donc, où on recommençait le cycle de la lecture, et normalement on recommençait la lecture du Deutéronome, puisque c'était le Pentateuque qui était lu de manière cyclique dans l'année, et qui se terminait ainsi: il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon. Et quand la lecture est finie, Jésus se lève. Ça a dû mettre du désordre dans l'ordre établi. Jésus se lève et il dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Parce qu'après cette prière, ils appelaient la bénédiction. La pluie de la première et de l'arrière-saison qui amenait de nouveau un nouveau cycle au niveau de la nature, des bénédictions de Dieu qui allaient amener la récolte qui commençait à Pâques, au mois d'avril, et qui se terminait après toutes les récoltes à peu près en octobre, puisque le premier mois, je vous fais court sur ce Lévitique 23, le premier mois c'est la Pâque, c'est avril, et au septième mois, vous comptez, vous arrivez à octobre-novembre, le Yom Kippour et la fête des tabernacles. Et qui amenait la prière pour le recommencement. Et à ce moment-là, Jésus a visé le bon moment, c'est sa maison. Elle est à lui. On a vu avec le frère qui a prêché dimanche dernier que dans sa maison, à un moment donné, il a mis des choses dehors. Mais ce jour-là, au moment de la lecture et de la prière finale, il se lève. Et il dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est comme s'il était en train de reprendre le Pentateuque, les premiers livres de la Bible, la base que Dieu a donnée à Moïse, en disant: mais Moïse a annoncé la venue du Messie. Dieu a donné à Moïse la Pâque. Et moi, je suis le Messie annoncé, qui amène la suite. Et la suite, c'est lorsque, après avoir donné sa vie en sacrifice, le ciel va s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu va descendre comme jamais il n'était descendu. Jusque-là, l'Esprit de Dieu était sur les prophètes, qui manifestaient des choses extraordinaires de la part de Dieu. Mais il y avait une attente du côté de Dieu. C'était de pouvoir mettre dans le cœur de l'homme de son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vieillards des songes. Et la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, l'aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je vais juste vous le lire. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, c'est Actes chapitre 2, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est Dieu qui était aux commandes, c'est Dieu qui était à l'initiative. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte, c'est un rendez-vous préparé par Dieu. Le Seigneur a mis 3 ans afin de préparer, en particulier, il n'y avait pas que cela, ce rendez-vous. Et avant de partir, il va leur dire: je vous le dis, c'est solennel, ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Père ait donné ce qui a été promis. Ce n'est pas une attente de la part des disciples, c'est une attente de la part de Dieu. C'est une fête dans le ciel. Des hommes et des femmes vont pouvoir désormais prier en esprit. Je fais juste une parenthèse. Quand un étranger vient vous rencontrer et qui se met à parler votre langue, ça va mieux. S'il parle la sienne, c'est à vous de faire l'effort, si vous êtes capable de traduire, Mais il va y avoir quand même du décalage. Eh bien, d'une certaine manière, l'image est imparfaite, mais quand même, d'une certaine manière, quand nous prions Dieu avec nos mots, chaque peuple prie Dieu avec sa langue. D'accord ? Et Dieu traduit, Dieu comprend. Et puis, à un moment donné, et je suis sûr d'être juste en vous le disant comme cela, à un moment donné, par l'action de l'Esprit de Dieu, nous pouvons prier Dieu dans sa langue. Alors, d'aucuns me diront, très littéraux, il y a les langues des hommes, il y a les langues des anges. Eh bien, d'accord, on va commencer peut-être par les langues des anges, néanmoins, ce sont les langues du ciel qui sont certainement bien différentes des langues de la terre. Et quand des hommes et des femmes se mettent à prier en esprit, Mais en nous, c'est comme si quelque chose d'extraordinaire se passait. Nous rentrons dans la vie de Dieu. Nous entrons dans la dimension de Dieu. Nous avons été capables de faire du bien à quelqu'un avec nos propres mots. Dieu, avec les siens, est capable de toucher les cœurs, de restaurer les âmes. Et il nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Les mots de Dieu ont un effet qui n'est pas comparable à l'effet de nos propres mots. Ce n'est pas pour mépriser les nôtres, c'est pour dire que Dieu nous attend plus haut. Et le jour de la Pentecôte, c'est physique peut-être, mais ça a sa signification. Il faut aller dans la chambre haute, il faut aller un peu plus haut qu'au ras du sol. Au ras du sol, eh bien, on fonctionne tous au même niveau. Et pour rencontrer Dieu, montons à l'étage. Montons sur la montagne, montons dans la chambre haute. Faisons l'effort de nous élever un petit peu et de nous tourner vers lui. Et c'est une promesse qui est réalisée. Dieu donne de son esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait la liste de ce que Dieu a donné, on est confondu. Il a donné le monde, il a donné la vie, il a donné sa parole, il a donné son Fils, il donne de son esprit. Qu'est-ce qui manque ? Dieu a tout donné, il va même donner un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est une promesse qu'il réalise. Des langues se posent sur chacun. La parole de Dieu. La parole a été faite chair. Et maintenant, la parole vient dans la vie des hommes. Et ils vont parler animés de l'esprit, inspirés de la parole. Et là, c'est quelque chose de particulier à vivre, que Paul va réaliser. Et il dira, j'ai prié avec mon intelligence. Mais Dieu m'a fait la grâce d'aller un peu plus haut et de prier en esprit. Et du coup, quand je prie en esprit, il le dit, parce que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit énormément, Paul, il est très instruit, il dit « Mon intelligence demeure stérile. Je suis conscient que mon intelligence, elle est en stand-by. Et je suis en train de prier Dieu en esprit. » Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. C'est trois mots, hein, c'est rien du tout. Mais ces trois mots, c'est un clin d'œil de Dieu à notre égard. Vous me parlez en direct. Vous me parlez sans besoin de traduction. Alors, pourtant, Dieu est capable de traduire et d'interpréter parfois. Mais là, nous parlons en direct. C'est lié à la révélation. La révélation de tes paroles est claire. Et il a mis sa parole dans notre cœur. Maintenant, par son esprit, nous avons compris la dimension des choses. Et comme on le lisait cette semaine, mes paroles sont comme la plume d'un habile écrivain. Pendant un certain temps, je ne savais pas comment te dire les choses. Et maintenant, en langue, je sens qu'il n'y a plus de barrière. C'est vrai que mon intelligence ne capte pas tout, parce qu'elle est dépassée, tout simplement. Mais je sens, par contre, qu'il n'y a plus de barrière. Et même dans l'Épître aux Romains, Paul dira, l'Esprit nous aide dans nos prières, quand nous savons ce qu'il convient de demander. Là, nous parlons à Dieu, et notre prière est inspirée. J'oserais dire que, quand en parlant en langue, c'est une prière, elle est plus efficace que jamais. Parce que nous disons ce qui est juste, nous disons ce qui est vrai. Nous ne nous trompons pas. Du coup, nous ne disons pas à la fin que ta volonté soit faite. Parce que nous sommes dans le cadre total de la volonté de Dieu. Quand nous prions avec notre intelligence, alors il convient de dire que ta volonté soit faite. Mais quand nous prions en langue, je suis sûr qu'on ne le dit pas. Parce que notre volonté et la volonté de Dieu sont en parfaite communion. Et puis nous parlons avec les mêmes sentiments qui sont en Dieu. Parce que l'Esprit ne se limite pas à nous accorder de parler en langue. Il nous donne le fruit de l'Esprit. Il nous donne de vivre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, quand on va intercéder pour quelqu'un, mais tout notre être va y être. Notre corps, notre âme et notre esprit sont en prière. Comme Jésus a prié et il était entier quand il priait. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais il parle à Dieu, et c'est un esprit qui dit des mystères, c'est-à-dire des choses cachées, humainement parlant. Mais le plus beau des mystères révélés, c'est quand même Christ. C'est un esprit que nous parlons de Christ. Et Dieu a permis qu'il y ait un petit peu comme des fenêtres qui s'ouvrent. Mais quand on parle en langue, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, le jour de la Pentecôte, il y a le fait et l'explication. Ces hommes et ces femmes qui sont venus de toutes les contrées connues de l'époque en pèlerinage à Jérusalem, les entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue. Et quand nous parlons en langue, nous parlons des merveilles de Dieu dans la langue que Dieu comprend. Que certains comprennent, puisque c'était des langues humaines en l'occurrence, mais il n'y a pas que celle-là. Et nous parlons des merveilles de Dieu. Et quand nous intercédons avec justesse. Et à d'autres moments, et nous n'en sommes pas conscients, sauf que nous pouvons mesurer l'effet, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et Paul le dira, je parle en langue plus que vous tous. Dans l'Église, j'agis avec mesure et respect, mais je parle en langue plus que vous tous. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. C'est la fête de Pentecôte. C'est celle qui est la suite de Pâques. La Pâque, c'était la fête que Dieu organisait pour nous, pour le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés. C'est lui qui paie le prix. C'est lui qui met sur la table ce qu'il faut avec l'agneau de Dieu sacrifié. Et il nous fait comprendre que cette première fête appelle une deuxième fête. Et la seconde, elle est pour lui. Élevons-nous notre voix pour lui, plutôt que souvent pour nous. Recevons-nous de son esprit pour lui. Et pas uniquement pour nous. Ne nous réjouissons pas simplement de l'effet de tout cela pour nous, mais ayons un retour pour lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il nous faut considérer. Et je vais terminer en relisant ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean, et puis dans Actes. Jean chapitre 7, et ce seront les deux dernières lectures que je vous laisserai. Jean chapitre 7. Alors d'aucuns diront, c'était le message typique dans une église de Pentecôte aujourd'hui. Moi je ne dirais pas ça. Je dirais au regard des Écritures qu'aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte, c'est la fête de Dieu. C'est la fête pour Dieu. Jean chapitre 7, verset 37, nous sommes dans la synagogue. Les choses sont en train de se dérouler dans un ordre liturgique d'une certaine manière. Et le dernier jour, Jean 7, 37, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Alors dimanche dernier, le frère nous a surpris avec des attitudes que le Seigneur ne nous avait pas habituées, auxquelles il ne nous avait pas habitués. Mais là, il s'est mis à crier. Imaginez un instant que la porte s'ouvre et que quelqu'un se mette à crier. Ça va tous nous faire réagir. Sauf que là, c'est Seigneur Jésus lui-même, dans sa maison, qui s'écrie, alors qu'on est complètement habitué, j'allais dire endormi, mais dans le sens de l'habitude cyclique des choses, alors qu'on est habitué à tous les ans, c'est la même chose, ce sont les mêmes textes qu'on lit, la même prière que l'on va faire pour que l'année recommence. Et Seigneur, merci de bénir cette année. Et là, d'un seul coup, il se lève, il dit, si quelqu'un a soif, et il crie, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait la Pâque pour la Pentecôte. Mais prophétiquement, il l'annonce. Et l'apôtre Paul, qui va découvrir tout cela à son niveau, dira ceci, on revient au chapitre 14 des Corinthiens, et on va lire cette fois-ci les 15 premiers versets. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, et surtout à celui qui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, qui parle de la part de Dieu, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et on voit la cohérence de l'effet de l'Esprit. Que ce soit pour nous, que ce soit pour le peuple de Dieu, c'est une base d'édification. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. On est là dans le cadre de l'Église. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Si des objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'y en a aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas la langue, le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Et là, il ouvre une parenthèse plutôt personnelle. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Et je vais terminer avec cela, l'attente de Dieu, d'une certaine manière qui est une fête pour lui, c'est que ses enfants prient aussi par l'esprit, aussi par l'intelligence, et les deux. Que faire donc ? Et je m'adresse à lui. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous dans ta maison ? Qu'est-ce que tu attends de nous dans notre vie de tous les jours ? Que faire donc ? Et Paul le dit, je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec mon intelligence. Et c'est ce que Dieu a voulu nous donner. Ce vers quoi il nous dirige les uns et les autres. Et celui qui parle en langue, il dit des mystères. Il loue Dieu, il l'adore. Et sans s'en rendre compte, parce que c'est l'effet induit de la parole de Dieu, il s'édifie lui-même. Et quand on a passé un moment dans la présence du Seigneur à prier, on se fait du bien. Quand on prie avec l'intelligence, on se fait du bien. Combien de fois ne sommes-nous pas arrivés à la réunion de prière dans un certain état, et le fait de prier ensemble nous a fait du bien. Eh bien, à plus forte raison, et je dirais dans une dimension encore plus grande, il en est de même, quand nous prions en langue. Et Paul le dira, n'empêchez pas. Que tout se fasse avec ordre et bien séance, mais n'empêchez pas de parler.